Bienvenue dans le podcast « Tout se transforme ». Je suis J.S. Klein, consultant auprès des entreprises sur les sujets liés à leur transformation. Dans ce podcast, je vous propose d'aborder toutes les thématiques de la transformation des entreprises, comme le digital, le management ou la RSE. Je serai accompagné d'experts dans ces domaines, mais aussi de professionnels ayant vécu la transformation. Pour m'aider à faire vivre ce podcast, prenez le temps de le partager et d'aller mettre des étoiles et des commentaires dans iTunes. C'est ce qui lui permettra d'être visible et accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires pour me proposer des idées de thématiques, par exemple. Allez, sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Très bonne écoute à tous. 2021, et Skynet n'a toujours pas pris le contrôle de la planète et a servi l'espèce humaine. Et pourtant, je ne sais pas pour vous, il n'y a pas une journée où je ne vois pas émerger dans mon fil LinkedIn une nouvelle start-up s'appuyant sur un algorithme d'intelligence artificielle pour offrir un service de toute évidence révolutionnaire. Mais toujours pas de Skynet. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle? Et pourquoi les entreprises ont intérêt à s'y intéresser? On en parle tout de suite. Nous sommes entrés dans l'ère de la donnée reine. Des pétaoctets d'informations circulent chaque jour sur Internet. Elles sont stockées, puis analysées par des algorithmes de plus en plus performants. Des algorithmes qui s'appuient généralement sur de l'intelligence artificielle, de l'IA, pour les initiés. Les concepts d'intelligence artificielle ne sont pas nouveaux. Ils sont presque aussi vieux que l'informatique elle-même. Pourtant, l'IA est souvent fantasmée. Fantasme largement nourri par Hollywood et pimenté par une propension de l'être humain à projeter sur l'IA ses propres défauts. Ces super intelligences sont donc par essence belliqueuses, agressives et n'ont qu'un but, anéantir notre espèce. Notons cependant que nous n'avons pas vraiment besoin d'IA pour ça, nous sommes bien partis pour nous débrouiller tout seuls. Mais ici, on parle de transformation des entreprises. Alors, qu'est-ce que l'IA a à voir avec l'entreprise et sa transformation ? Petit retour en arrière, il y a 10 ou 15 ans, quand on parlait de digital, combien de chefs d'entreprise répondaient encore « ça ne me concerne pas, on n'utilise pas Internet dans mon activité ». Et pourtant, aujourd'hui, le digital est partout, de la multinationale au petit restaurateur qui fait livrer ses repas par une société de VTC. Soyez prêts, l'IA va être la nouvelle révolution pour les entreprises et tous les signaux tendent à le confirmer. Et pour en parler, j'ai fait appel à un expert sur le sujet. J'ai en effet le plaisir de recevoir Martin Ragot, qui est chercheur en sciences cognitives à l'Institut de recherche technologique Bicom. Bonjour Martin.
Bonjour.
Merci de me recevoir à Rennes dans les locaux de Bicom pour aborder ce sujet passionnant de l'IA et l'entreprise. Est-ce que tu peux en deux minutes nous présenter qui tu es et qu'est-ce que Bicom ?
Oui. Donc en effet, je suis chercheur en sciences cognitives à l'IRT Bicom. Bicom est un institut de recherche technologique privé qui a pour objectif d'explorer, de concevoir, de fournir des innovations à destination des entreprises, globalement dans le domaine du numérique et ou des nouvelles technologies avec différents domaines qui s'appliquent à cela autour des infrastructures numériques, de l'industrie culturelle et créative, de la défense, de la sécurité et de l'industrie 4.0.
Merci beaucoup. Alors, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Le premier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est déjà qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ? Et précisément, essayer de sortir un peu du fantasme. Déjà, comment est perçue l'IA, généralement, par les individus ? Et pourquoi ce n'est pas tout à fait la réalité ? Est-ce que tu as des exemples sur ce sujet-là ?
Oui, c'est vrai qu'il y a de nombreux fantasmes autour de l'intelligence artificielle qui est nourri, entre autres, par la littérature, la cinématographie science-fictionnelle, qui a nourri nos imaginaires. Beaucoup de peur aussi, qui est liée, entre autres, à l'automatisation. C'est des choses qui ne sont pas forcément nouvelles, qui ne sont pas spécifiques à l'intelligence artificielle, mais qui sont exacerbées de nos jours, vu les puissances de calcul et les puissances promises par l'intelligence artificielle. Ce qu'on observe assez généralement, il y a de nombreuses études à l'appui sur ces aspects-là, c'est une forme de polarisation. Donc l'IA est à la fois fascinante, il y a une forme d'admiration pour l'IA, avec peut-être parfois des surpromesses associées à ses capacités, et puis des peurs, très clairement. Donc c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir des fantasmes autour de l'intelligence artificielle. On a mené une enquête à ce propos sur la perception du grand public autour de l'intelligence artificielle, et Quasiment une personne sur deux, un des premiers mots qui leur venait à l'esprit était le terme de robot. Une forme d'anthropomorphisation, donc de personnalisation de l'intelligence artificielle sous cette forme-là. Et puis, on sent bien derrière que cette matérialisation de l'IA sous forme de robot est aussi inhérente à ces imaginaires-là, globalement, qui sont construits. Donc, voilà, globalement, des fantasmes autour de ça, un rapport assez négatif sur l'étude dont je vous parle. Quasiment 60% des termes qui étaient naturellement évoqués par les participants étaient à valence négative, donc plutôt négatif autour de l'IA, donc ce qui témoigne et justifie de ces peurs-là associées. Et puis 40% des termes plutôt positifs. Ce qui joue aussi sur, à la fois sur ces peurs et sur cette fascination, ce sont des effets d'annonce. Donc parfois, les techniques de l'IA actuelles ou ses capacités sont enjolivées, soit par la façon dont les informations sont communiquées dans les médias, soit par des annonces d'entreprises à but communicationnel, évidemment. Et puis, très clairement, que ce soit la littérature ou la cinématographie science-fictionnelle, donne l'impression aussi que de nombreuses capacités sont déjà là, alors qu'elles sont encore parfois seulement dans les laboratoires de recherche. Donc, ce qui enjolive très clairement les capacités perçues.
Oui, parce que, en fait, ce que la littérature ou le cinéma mais en avant depuis longtemps, c'est une espèce de super intelligence. On sait aujourd'hui qu'en termes de recherche, on n'en est pas encore là. Alors, soit on a des IA très spécialisées hein, qui sont en capacité de faire un certain nombre de choses. On le voit sur l'IA de Google, par exemple, qui est en capacité de vaincre le champion du monde de Go. Au niveau robotique, il y a effectivement des choses qui sont développées. Quand on voit les progrès de Boston Dynamics, oui, ça peut faire un peu peur quand on voit les différents robots. Mais on n'est pas encore sur une super intelligence au sens d'une IA consciente. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que on peut rapidement redéfinir ce qu'on appelle une intelligence artificielle, une IA, et peut-être faire un peu un historique de d'où ça vient et quelles sont les grandes familles d'IA aujourd'hui?
Oui, en effet, l'intelligence artificielle, donc qu'on appelle IA en tant qu'acronyme, peut être globalement définie. Donc, il y a évidemment une diversité de définitions associées. Nous pourrions la définir comme un ensemble de théories, de logiciels, voire même de programmes informatiques qui ont pour objectif de simuler et de modéliser l'intelligence. Pas forcément l'intelligence humaine, d'ailleurs, même si c'est souvent ce qui est repris comme définition. Donc, c'est voilà, globalement une des définitions assez simples que l'on pourrait donner de l'intelligence artificielle, avec différents moyens de la discriminer. On parlait tout à l'heure d'intelligence supérieure ou générale ou globale. Actuellement, on peut la définir comme soit une IA faible ou une IA forte. Une IA faible, c'est en effet une intelligence artificielle. Donc, c'est celle qui est actuelle, hein, qui est circonscrite à un domaine bien spécifique et qui n'est pas douée de conscience générale. Les intelligences artificielles ne sont entre guillemets que faibles actuellement dans leur définition ou catégorisation. Et puis, d'autre part, l'IA forte, dont on entend beaucoup parler. Qui serait une IA à terme capable de dépasser sur tous les domaines les capacités cognitives de l'homme et puis d'avoir cette capacité de généralisation des résultats à tout domaine avec toutes les peurs qui sont associées aussi et les fantasmes évidemment associés. En tout cas, l'IA forte actuellement n'existe pas. Peut-être même qu'elle n'adviendra jamais, cela dépend des prédictions.
Tu parlais d'anthropomorphisme là-dessus et j'en parlais en introduction. Même si des progrès sont faits sur cette question d'IA forte, on est quand même dans une projection où on lui reprend les traits de l'être humain, donc ce côté un peu belliqueux, agressif, ce qui serait, même si on arrivait à aller au bout, ce qui ne serait pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une IA qui serait très différente de l'être humain. On projette une intelligence qui serait celle de l'être humain.
Oui, tout à fait. On a souvent cette tendance-là. Ça vaut, en dehors de l'intelligence artificielle d'ailleurs, à être centré en fonction de nos valeurs et de nos représentations. Donc ça vaut ici pour l'intelligence artificielle que l'on modèle, qui est créée par des êtres humains. Mais donc on a tendance à la représenter parce que c'est plus simple à modéliser pour le grand public aussi sous cette forme-là d'un robot ou de quelque chose qui nous représenterait. Avec tous les dangers de ça aussi et de peurs associées, il y a ce concept de la vallée de l'étrange qui explique que en fait plus quelque chose va être semblable à l'être humain, plus ces différences vont nous sembler monstrueuses et un peu inquiétantes. Donc il y a aussi ça qui se joue en effet, mais dans les faits, actuellement, au quotidien, puis sûrement pour plus tard, l'intelligence artificielle ne prendra une forme que informatique ou en tout cas bien différente de ce que l'être humain représente.
Ouais. Alors, je te propose qu'on aborde les applications qu'on va avoir de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'entreprise. Vous avez, au niveau de Bicom, déjà produit une série de 5 podcasts qui traitent de ce sujet-là, qui est passionnant. J'invite les auditeurs vraiment à aller les écouter. Ça s'appelle 2031, travailler au temps de l'IA.
Exactement.
Est-ce qu'on peut, entre nous déjà, citer quelques exemples de domaines d'application que va avoir l'IA dans l'entreprise ou on va dire dans la société professionnelle aujourd'hui et qui sont percutants dans le sens où ils ne sont pas forcément visibles mais qui vont avoir beaucoup d'impact ou éventuellement qui sont très visibles. Quels sont ceux qui te marquent le plus de ton côté ?
Ce que l'on peut déjà dire, ce sont les usages actuels. Certains sont connus, d'autres assez méconnus du grand public, soit dans notre vie quotidienne ou dans l'entreprise. Globalement, les applications de l'IA sont assez diverses et variées. Il y a eu un vrai renouveau de l'IA ces derniers temps pour plusieurs raisons, entre autres une augmentation de la puissance de calcul, des progrès théoriques, algorithmiques.
Le volume de données.
Et une disponibilité de données, une disponibilité exacte de données très importante. Et au-delà de la quantité, aussi un type de données. Donc beaucoup plus de données disponibles sur la vidéo, sur l'audio, sur du texte, de la voix. Donc il y a une forme de ce qu'on appelle de multimodalité des données qui nous permettent aussi d'enrichir ces modèles d'intelligence artificielle. Donc c'est ce phénomène-là a fait que l'intelligence artificielle a pu avoir une forme de renouveau sur ces dernières années et puis être appliquée à de nombreux champs, de nombreux domaines. Donc on peut en lister quelques-uns qui sont divers et variés dans des choses au quotidien, sur ne serait-ce que dans nos smartphones, évidemment, sur les réseaux sociaux que nous utilisons, la façon dont les contenus que nous voyons sont orientés en fonction de nos choix précédents et de nos préférences, ce qu'on appelle aussi une forme de bulle de filtre.
Donc, ce qu'on voit particulièrement, par exemple, sur l'audio, alors personnellement, moi j'utilise Spotify au niveau de la musique, on sent que les algorithmes nous renferment sur des styles musicaux qu'on connaît et qu'on a envie d'écouter, et donc il y a de moins en moins de capacité à aller découvrir d'autres choses parce que l'algorithme vient nous nourrir avec ce qu'on a envie d'écouter.
Tout à fait. L'avantage, c'est vraiment initialement ce système de recommandation qui est censé être un service proposé à l'utilisateur et qui contient de nombreux aspects positifs puisque en fonction de nos choix et de nos préférences passées, on pourra avoir voilà, des recommandations de contenu adaptées. Et en effet, l'inconvénient, ou ce risque-là, c'est le fait d'être enfermé dans ses propres convictions, ce qui pose des problèmes au niveau de l'ouverture en entreprise, des problèmes aussi politiques, on l'a vu sur certaines élections au niveau de la vie quotidienne avec l'exposition ou la confirmation sur nos propres opinions. Donc, en effet, les réseaux sociaux sont un des exemples, les recommandations via YouTube, via les plateformes de divertissement sont un des exemples de l'intelligence artificielle aussi. Donc dans la vie quotidienne, l'intelligence artificielle est déjà là, c'est même pas prospectif, c'est déjà pleinement là. Ensuite, dans différents domaines, l'intelligence artificielle arrive et peut paraître plus étonnante aux yeux du grand public, comme l'art, par exemple. L'intelligence artificielle, actuellement, est capable de générer des stimuli audio, vidéo, donc de créer des peintures à l'image d'eux, de proposer des sons basés sur un agencement de données préalable. Donc même la créativité, qui semble être un peu l'apanage de l'être humain, semble être un domaine nouvellement intégré par l'intelligence artificielle aussi. Tout ce qui est traitement du langage naturel, très clairement, donc que ce soit de l'analyse sémantique de textes écrits pour en faire ressortir des éléments clés, ou l'analyse de la voix, par exemple, de la prosodie, c'est des choses qui sont utilisées lors de d'échanges avec l'entreprise, de services après-vente, de plateformes comme ça à distance. La tonalité de la voix, donc la mélodie de la voix, ce qu'on appelle la prosodie, peut être chargée émotionnellement, donc il peut y avoir une forme d'inférence ou de prédiction des émotions de l'utilisateur en fonction de la voix et des données physiologiques associées. Là encore, dans ces choses-là, il y a de l'intelligence artificielle. Donc il y a déjà des choses très clairement installées. Dans le juridique, c'est pareil. Il y a en fonction des États ou des pays et des cultures, des choses en termes de prédiction qui sont déjà utilisées. Certains juges, certains magistrats ont des possibilités actuelles de requêtes pour essayer d'aller chercher dans des bases de données selon des critères spécifiques pour aller nourrir leurs réflexions sur des jugements. Voire même disposer de scores un peu prédictifs pour les aider à la décision dans certaines affaires. Dans le domaine de la santé, évidemment aussi, l'IA est de plus en plus prégnante et on peut postuler du fait qu'elle le soit davantage à l'avenir pour aider à la décision certaines personnes du corps médical ou les aider, entre autres sur la reconnaissance d'images où l'intelligence artificielle est très très forte. On peut prendre l'exemple de la détection de mélanome pour les dermatologues où on se rend compte que l'intelligence artificielle a déjà actuellement des performances plus importantes que les dermatologues eux-mêmes. On est sur 95% de bonne détection versus 89%. Donc on voit sur certains domaines, l'IA dépasse l'homme.
Je l'avais vu sur la psychologie aussi, enfin sur la détection, la dépression. Via les signaux faciaux, justement, la reconnaissance de la voix, l'IA avait une capacité à détecter la dépression chez les individus qui était plus forte que celle des psychiatres et des psychologues.
C'est ça, ou en tout cas à l'anticiper, et c'est vrai que sur ce domaine de ce qu'on appelle ici de l'affective computing dont on parle, c'est vraiment comment on peut essayer de détecter ou d'inférer des états cognitifs et émotionnels à partir de données physiologiques. Il y a un vrai champ de recherche, et certaines de nos recherches d'ailleurs à Bicom sont aussi centrées sur ces aspects-là. Donc on le voit vraiment, l'IA est très globale, des exemples connus aussi autour de la conduite autonome, très clairement, de l'IA aussi dans les avions, dans les transports. On le voit même sur des choses un peu moins connues, mais qui intéressent aussi l'entreprise, telles que des outils de community management, où il peut y avoir des formes d'influenceurs virtuels, donc des bots, des robots un peu virtuels qui vont pouvoir aider à la diffusion d'informations. Et puis, des choses assez puissantes, plus globales sur la société, comme un octroi de crédit, par exemple. C'est-à-dire que les banques, actuellement, pour éviter les risques au maximum, vont se baser sur des critères et sur des bases de données très importantes pour essayer d'avoir un scoring, donc une forme d'évaluation sur le caractère acceptable ou non de l'octroi d'un crédit à un utilisateur ou un participant. Donc, que ce soit au niveau entreprise ou personnel, l'IA est déjà là et on peut postuler du fait qu'elle le soit encore plus.
Est-ce qu'on, je digresse un peu par rapport au sujet, est-ce qu'on n'a pas un risque de faire trop confiance à la donnée, un petit peu comme les outils de BI qui existaient aujourd'hui, qui font pas forcément appel à de l'IA, mais qui vont analyser de la donnée et donner un certain nombre d'outils à la décision. Est-ce qu'on n'a pas un risque de trop faire confiance à une intelligence artificielle qui se base sur un volume de données connu et donc qui va pas forcément s'adapter à un contexte qui évolue. Est-ce qu'on n'a pas un risque de trop faire confiance à ces algorithmes et de plus suivre une intuition qui, d'un point de vue humain, peut parfois avoir quand même cette capacité à s'adapter à un contexte particulier ?
Sur cette question-là, on peut dire que pour l'intelligence artificielle, on en fait à la fois trop et pas assez. C'est-à-dire qu'il y a encore des opportunités énormes d'exploitation de données qui font encore peu sens, mais qui, via l'intelligence artificielle, pourraient fournir une opportunité très intéressante pour les entreprises, en structurant leurs données et en leur donnant de la valeur, très clairement. Et en même temps, en effet, il y a un certain nombre de biais dont il faut avoir conscience, qu'on peut possiblement dépasser, avec entre autres cet effet rétroviseur, le fait même que l'intelligence artificielle se nourrit de données passées, par définition, pour fournir ces prédictions-là. Et donc, comment penser des ruptures quand on ne se base que seulement sur des données passées ? Donc ça, c'est une forme de biais déjà connue et reconnue, qu'on appelle l'effet rétroviseur. Il y a un certain nombre de biais aussi sur la constitution même de cette base de données-là, qui donne à voir aussi sur nos biais cognitifs ou nos biais humains. C'est-à-dire qu'en ce sens-là, la machine et l'homme ne sont pas si différents. Si les données, par exemple, pour du recrutement, pour une tentative de recrutement via des logiciels basés sur l'intelligence artificielle et de l'analyse d'un grand nombre de CV, on se base sur des critères précédemment utilisés dans des précédents recrutements effectués par des êtres humains, qui sont par définition aussi biaisés, ces mêmes biais-là vont être implémentés dans la base de données. Donc avec des biais de discrimination possibles et de reproduction de ces biais-là à l'avenir avec l'IA. Donc l'IA ne règle pas toutes ces questions-là, mais ne fait pas forcément moins bien non plus. C'est des choses dont il faut avoir conscience.
C'est ça. Ce qui était cité dans les podcasts que vous avez sortis côté Bicom sur la partie juridique, c'est-à-dire que si des décisions juridiques étaient discriminantes et si la base de données fait appel à une jurisprudence qui met énormément en avant des décisions qui ont été discriminantes, ben, l'IA va reproduire ça au lieu d'essayer d'aller vers une société qui met moins en avant de la discrimination. Donc ça, c'est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte ces éléments-là. Et pour avoir vu pas mal d'entreprises qui font trop confiance aux données qui remontent, ça reste quand même un risque de se dire attention, l'IA ne s'appuie que sur des données passées. Donc si on regarde vers l'avenir, ça ne peut être qu'un outil d'aide à la décision, mais ça n'est pas la décision en elle-même. Ce qui nous amène au troisième chapitre, on voit un petit peu le panorama d'où on en est aujourd'hui. Et encore, on l'a fait très rapidement, on l'a couvert très rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels de l'intelligence artificielle est mise en œuvre et c'est assez transparent pour nous. Mais vers quoi allons-nous aller dans les 5-10 ans à venir ? Est-ce que tu as quelques exemples de marquants de ce à quoi on pourrait s'attendre sur l'entreprise de demain?
On peut donner des grandes tendances qui ont des chances d'advenir. Pour précision là-dessus et pour nuance, la prospective en tant que telle, donc ce sur quoi nous nous basons pour sur nos projets de recherche sur ces questions-là, a pour objectif non pas de deviner l'avenir, ce qui est totalement impossible, ce qui serait irréaliste, mais essayer de cartographier les futurs possibles. Donc c'est vraiment ça. Ce n'est pas un art divinatoire, mais une tentative de cartographie des futurs possibles. Donc on peut émettre des grandes tendances qui pourraient advenir et essayer de faire en sorte derrière que, en mappant ces grandes tendances-là, qu'on éclaire l'action présente. Donc c'est vraiment important. C'est-à-dire que la prospective n'est pas une prophétie autoréalisatrice. C'est pas en disant que quelque chose va advenir qu'il va réellement advenir. Donc c'est pour ça qu'il faut rester toujours humble dans ces projections-là. Et je préfère parler ici de grandes tendances plutôt que d'événements majeurs, puisque les événements majeurs sont parfois d'une part plus durs à prédire, et puis il y a aussi des événements de rupture qui viennent changer le jeu totalement et modifier la donne. En tout cas, si on se base sur les données passées et présentes, on peut émettre de manière caricaturale, on va dire, trois grands scénarios. Un premier scénario où l'IA serait évidemment source de productivité, mais viendrait aussi, de manière parallèle, un peu déséquilibrer ou augmenter ce déséquilibre autour du productivisme actuel, que ce soit entre les employés, entre les collaborateurs et puis même entre les entreprises en termes de différenciation et de concurrence. Un scénario peut-être un peu plus heureux où on verrait une forme de compensation, une création d'emplois qui viendrait compenser cette destruction d'emplois liée à l'IA. On pourrait ici parler soit de transformation ou en tout cas de réadaptation du tissu professionnel avec, là encore, non pas forcément de la disparition de métiers, mais plutôt de l'évolution de tâches. Je pense que c'est important au niveau de l'intelligence artificielle et de l'impact sur le futur du travail, de distinguer ça. Dans beaucoup, beaucoup de rapports, on promet la disparition de certains corps de métier. Ce qu'on observe dans le temps, de manière passée, et puis ce qu'on peut émettre de manière future, c'est plutôt une évolution des tâches.
Ce qui s'est passé avec l'automatisation et avec le digital déjà.
Exactement. Ouais. Donc, dans les faits, clairement, certains corps de métier ont disparu, d'autres ont apparu, mais globalement, ce sont vraiment une requalification et une modification des compétences qui sont amenées. Et puis le dernier scénario, ce serait un scénario réaliste ou un petit peu plus réaliste aussi, où il y a une prise en compte de ces impacts, des impacts de l'intelligence artificielle, entre autres en termes environnemental, sociétal, les différentes conséquences dont on parlait tout à l'heure, et qui amènerait à conduire à un usage raisonnable de l'intelligence artificielle sur des domaines bien spécifiques où il y a une vraie valeur ajoutée. Typiquement la santé, typiquement ce genre de domaine où on arrive à circonscrire l'intelligence artificielle et observer une vraie plus-value, avec l'idée ici qu'elle ne se substitue pas forcément à l'être humain, mais qu'elle soit un outil d'aide à la décision. Là encore, on ne peut pas prédire que cette chose-là va advenir. Ce qui est à peu près sûr, c'est que dans toutes les études qui ont été menées, que l'on a menées aussi, on a vraiment ces résultats-là qui ressortent de nécessité de garder le contrôle. Donc c'est un désir qui est émis par les collaborateurs, aussi par les responsables d'entreprise, que ce soit vraiment un outil supplémentaire d'aide à la décision, qui vienne éclairer l'action présente et qui leur laisse totale liberté dans le choix et les choses à mettre en place derrière.
Alors c'est sûr que... On parlait du côté automatisation du digital et donc l'arrivée de l'IA. De toute évidence, l'impact va être fort. Après, déterminer exactement à quel niveau et sur quoi ça va porter, c'est beaucoup plus dur et la prospective a plus de mal à le faire à ce niveau-là. Est-ce que de ton côté, on doit quand même être vigilant sur les questions qui vont tourner autour de la valeur du travail? Comment est-ce qu'on protège potentiellement les collaborateurs dans l'entreprise avec une arrivée de l'IA qui risque de remplacer un certain nombre de personnes ou de tâches?
Ce que l'on voit, c'est que déjà les études et les rapports divergent sur l'impact global de l'intelligence artificielle sur la création et destruction d'emplois. Pour avoir un ordre d'idée sur les grandes études qui sont ressorties, cela va de 5% à quasiment 50% de destruction d'emplois. On voit de la variabilité énorme, ce qui permet de nuancer très clairement les propos sur l'impact global sur le marché du travail. Ensuite, si on regarde sur le travail en tant que tel, si on postule du fait que l'intelligence artificielle nous permet de gagner en productivité, nous permet d'éviter certaines tâches plus pénibles, d'essayer d'automatiser certaines tâches un peu répétitives, on peut espérer un gain de temps au sein du travail, gain de temps qui pourrait être alloué de plusieurs manières. Ici, ce sont aussi des choix politiques et sociétaux. Donc on peut là encore cartographier les possibilités. Que fait-on de ce gain de temps obtenu? Est-ce que cela passe par un temps de travail global réduit? Donc là, ce sont aussi des questions d'entreprise et puis sociétales plus globales. Ou est-ce que ce temps obtenu nous permet d'allouer ces tâches-là à d'autres types de tâches où l'être humain a peut-être davantage de différenciation encore sur des tâches d'empathie, d'écoute du client, d'accompagnement, d'aide à la prise de décision, de formation des autres collaborateurs. Donc voilà, toute la question est que faisons-nous de ce temps-là gagné. Donc ça, c'est vraiment pour la question du travail. Et ce qui est assez étonnant dans une des études que l'on avait menées sur ces questions-là, de manière prospective, que pensait le grand public de cet impact de l'intelligence artificielle sur le travail? Globalement, il y avait une forme de biais d'optimisme, c'est-à-dire que les participants pensaient être chacun davantage protégés que les autres. Donc, ils estimaient qu'il y avait ce courant-là qui était en marche, mais qui les concernait tous un petit peu moins. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on observe bien. Et ils estimaient aussi que, a priori, assez globalement, l'IA n'allait pas automatiser totalement leur travail. Donc on revient à cette distinction métier et tâche, puisque toutes les tâches n'auront pas pour objectif d'être forcément automatisé. Et puis en effet, au-delà de la quantité de travail et de l'utilisation que l'on fait du temps gagné, se pose la question du sens et puis du contenu même des tâches. Il y a un risque très clairement souligné de fragmentation du travail, que l'on voit déjà d'ailleurs avec l'implémentation grandissante des nouvelles technologies. Donc ce sont des choses qui sont possiblement dépassables, mais dont il faut avoir conscience. Très clairement sur l'impact même de nos métiers. Et puis au-delà du travail, ça joue aussi sur notre identité. C'est pour ça que on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle aussi actuellement dans les médias. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle arrive à aller sur des domaines que l'on pensait depuis très longtemps spécifiques à l'être humain, comme la créativité, comme la prise de décision, le jugement, voilà, quid de notre propre essence? Qu'est-ce qui nous fait être humain comparativement à la machine?
Oui, tout à fait. On a vu par le passé qu'on a une grande disparité d'adoption du numérique dans les entreprises. En France, on a un certain nombre d'entreprises qui ont pris la vague très tôt, d'autres qui ont été un peu en retard mais qui y sont encore, et d'autres qui n'ont toujours pas pris la vague du numérique. Alors, on sait que l'IA va arriver. À ton avis, quelles seraient les bonnes pratiques à adopter ou à anticiper vis-à-vis de l'IA si on est une entreprise en France aujourd'hui?
Je pense que le premier point, c'est une sensibilisation, une vraie acculturation avec une tentative de monter en compétence des collaborateurs et puis aussi des comités de direction pour comprendre réellement ce qu'est l'intelligence artificielle, quelles sont ses potentialités, quels sont les biais associés qu'il faut prendre en compte mais qui peuvent être la plupart du temps dépassés. Donc vraiment un premier point, je pense, de sensibilisation. C'est vraiment très important pour être sûr de parler le même langage et puis de voir la manière dont ça peut être structuré en entreprise. Très clairement, le deuxième point, c'est l'utilité et l'impact. L'intelligence artificielle est un outil extraordinaire et actuellement très performant, mais n'est pas nécessairement utile pour tous les domaines, ou n'est pas appliqué par défaut à tous les domaines. Donc, que voulons-nous faire en entreprise de cette intelligence artificielle-là? Quelle est l'utilité des données, de l'interprétation de celles-ci? Donc, le deuxième point, c'est vraiment de se poser des questions clairement macroscopiques de stratégie d'entreprise associées à ça.
Ce que tu disais, la recherche du sens, qui est extrêmement importante, c'est-à-dire, à partir du moment où on arrive à définir le sens de l'entreprise, on sait où est la place de l'humain, où est-ce qu'est la valeur de l'humain dans l'entreprise, et on sait où potentiellement on peut mettre de l'IA, parce qu'il y a un certain nombre de tâches sur lesquelles l'IA va apporter une valeur à automatiser ou à traiter de la donnée, mais on maintient cet équilibre entre l'humain et la machine.
Totalement, c'est une vraie question d'entreprise collective qui permet de préciser aussi la raison d'être de l'entreprise, et les questions autour de l'IA favorisent aussi ces interrogations-là. Donc très clairement, ça va dans ce sens-là. Et puis ensuite, une fois qu'on a défini cette utilité, cet impact ou plus-value espérée, en termes de marché, en termes de différenciation, se passe le temps de la structuration et de la donnée, donc de faire aussi un diagnostic des données déjà disponibles dans l'entreprise, de la façon dont on pourrait les utiliser, ou en extraire de l'information essentielle. Et puis, parallèlement aussi, voir comment on peut structurer les process métiers pour tendre vers cette forme de standardisation ou d'automatisation facilitée. Si les process métiers ne sont pas clairs, il est plus difficile de, voilà, d'appliquer de l'IA en interne. Donc, tout dépend de la façon dont on veut l'appliquer. Et puis, le dernier point, donc on le voit, il y a un mélange évidemment de technique et puis de conduite du changement. Le dernier point, c'est aussi la façon dont les collaborateurs en entreprise vont se saisir de ces possibles nouveaux outils-là. Et donc, ça rejoint très clairement, je pense, les points précédents, que sont la sensibilisation, la culturation, la question de la définition de l'utilité et de l'impact perçu. Mais dans ce niveau-là, nous sommes dans une étape, entre guillemets, classique de conduite du changement, oui, appliquée à de l'IA.
Bien communiquer aussi en interne pourquoi on met en place un certain nombre d'outils qui s'appuient sur l'IA, quel va être l'objectif. Puisqu'on l'a vu, et ça boucle un peu avec le début de ce podcast, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est nourri par des fantasmes. Donc, encore plus que sur le numérique, si on décide de s'appuyer sur ces technologies en entreprise, la communication sur quels sont les outils, quels sont leurs objectifs, comment ils vont être utilisés est très importante pour ne pas laisser de porte ouverte à ces fantasmes et à ces biais qui pourraient créer des tensions dans l'entreprise.
Et d'ailleurs, sur une des études que l'on avait menées, nous nous sommes rendus compte que globalement, les experts étaient beaucoup plus confiants dans l'avenir de l'intelligence artificielle que le grand public, ce qui montre bien en fait ces différences de perception en fonction de certains facteurs. Donc, le niveau d'expertise très clairement jouait, la sémantique utilisée très clairement jouait aussi. Quand on utilisait le terme d'ordinateur, il y avait moins de freins, moins de résistance, certaines informations, de façon de présenter l'information qui influencent et de caractéristiques associées.
Très bien. Alors, on arrive au bout de ce podcast, mais d'abord, j'ai ma question gimmick de tous les épisodes. Martin, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais transformer ce que tu voulais, qu'est-ce que tu en ferais?
C'est une très bonne question, c'est compliqué de répondre. Je devais choisir un élément, ça serait de souhaiter une prise de conscience individuelle et collective de l'urgence écologique, en espérant une mise en marche rapide, collective, coordonnée, politique aussi, autour de ces questions-là.
Il va falloir une bonne baguette magique, là.
Ouais. En tout cas, c'est l'espoir que je nourris. Et à nous aussi, au travers du développement des nouvelles technologies, de construire ce travail désirable, cette société désirable, en intégrant en amont des projets de recherche ou dès leur début, très clairement, en premier lieu, les impacts sociétaux et environnementaux. Donc, en renversant le paradigme, en intégrant directement ces enjeux-là pour voir comment les nouvelles technologies peuvent y répondre.
Ça pourrait être un bon épisode de podcast autour de la transformation de l'entreprise avec le côté éco-responsable au centre de la transformation. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci Martin d'avoir été là. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre? On peut suivre Bicom sur les réseaux sociaux?
Oui, on peut suivre les travaux de Bicom sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, le site internet.
Très bien, je mettrai les liens dans la description. Je rappelle la disponibilité sur toutes les plateformes des excellents épisodes de podcast 2031, Travailler au temps de l'IA. Je vous invite vraiment à aller les écouter, je mettrai les liens également. De notre côté, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tout se transforme. D'ici là, vous pouvez bien sûr interagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter, ou sur le site Tout se transforme. Si vous avez aimé cet épisode, bien sûr, partagez-le. Merci Martin, et à très bientôt, à très vite à tous.